RFI, grand reportage. Marie Casadebé. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Grand reportage à Ciudad Juárez, ville frontalière entre le Mexique et les États-Unis, tristement connue pour ses assassinats et ses disparitions. La violence y était quotidienne durant le mandat du président mexicain Felipe Calderón entre 2006 et 2012. Et des centaines d'assassinats et de disparitions ont été répertoriés. Très peu d'affaires ont été élucidées. La situation s'était calmée, mais ces derniers mois, le nombre de meurtres est remonté en flèche. Alors la ville tente de faire oublier cette violence avec ses usines d'assemblage high-tech, des pôles d'attraction pour les multinationales. Un grand reportage signé Véronique Guémard.
Ciudad Juárez, près d'un million et demi d'habitants, situé sur les hauts plateaux entourés de montagnes pelées, de déserts, fondée en 1659 sous le nom de Paso del Norte, le passage du Nord, célèbre pour son rôle dans la révolution mexicaine au début du XXe siècle. C'est aujourd'hui la ville frontière la plus peuplée. Ici, le Rio Grande ou Rio Bravo sépare Ciudad Juárez de la ville américaine d'El Paso. À l'arrivée du pont international qui enjambe la rivière, m'accueille Julián Cardona, photographe qui connaît chaque histoire de la ville où il vit depuis 56 ans.
Nos encontramos en la avenida Juárez que conduce hacia el puente Paso del Norte.
Nous sommes sur l'avenue Juárez qui mène au pont international Paso del Norte. Ici, c'était un quartier de divertissement. Dans les années 70, il y avait les plus grandes discothèques et plein d'Américains. À côté, la rue Mariscal grouillait de restos, de bordels, des maisons closes. Beaucoup d'Américains venaient aussi à Ciudad Juárez pour faire réparer ou repeindre leurs voitures. Tout ça, c'était dans les années 50.
À réparer leurs autos, à pintarlos. Era a mediados del siglo XX.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Du lado mexicano, es que aquí la economía cambió de ser una economía turística de servicios.
Côté mexicain, l'économie a changé. Elle était basée sur le tourisme et les services, et elle est passée à une économie de maquilas, des usines d'assemblage, surtout d'automobiles, dès le début des années 60. Ça a changé la ville avec la construction des zones industrielles. Et Ciudad Juárez s'est étendue de manière disproportionnée à cause de cette spéculation foncière. La ville, qui était touristique, s'est transformée en agglomération d'usines avec des bas salaires. Ce qui a changé côté américain, c'est le durcissement des contrôles à l'égard des Mexicains dicté par la politique extérieure du voisin américain.
Por las cuestiones de política exterior estadounidense.
Ce qui a surtout transformé la ville, c'est l'industrie de la maquila. María Teresa Delgado est la présidente de l'IMEX, l'association des maquiladoras de Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez, somos 280 000 trabajadores a la fecha.
On compte à Ciudad Juárez 280 000 employés. Nous constituons le secteur d'activité le plus important de la ville et de l'État de Chihuahua. Il y a 323 entreprises avec ce permis IMEX et nous sommes le réservoir de main-d'œuvre le plus important. On a vécu des moments très durs, très douloureux pendant le pic de violence, mais on s'en est sorti. Malheureusement, la presse nous a causé beaucoup de tort avec cette image de Ciudad Juárez comme la ville la plus dangereuse du monde. C'est une image négative, mais vous vous rendez compte en vous promenant qu'elle est très éloignée de ce qu'est Ciudad Juárez en réalité.
Dista mucho de lo que la gente piensa que somos en Ciudad Juárez.
Aujourd'hui, le nom de Ciudad Juárez évoque encore ces milliers de femmes et d'hommes assassinés entre 2006 et 2012, au plus fort de la guerre contre les cartels de la drogue menée par le président Felipe Calderón, qui avait déployé l'armée. Après le retrait de l'armée, le taux d'homicide a diminué, mais il remonte dangereusement. Selon le blog Frontera List, près de 300 personnes ont été tuées à Ciudad Juárez entre janvier et mars dernier. Jesús Peña Muñoz est spécialiste de la frontière au COLEF, le centre de recherche universitaire de la frontière nord.
Ultimamente han subido otra vez los crímenes de alto impacto, los asesinatos.
Ces derniers mois, le nombre d'assassinats a augmenté. Mais on a toujours eu ce problème sur cette frontière nord. Depuis que je suis né, j'ai toujours vu ces problèmes de concurrence entre narcos pour le contrôle des territoires avec des assassinats. Ça fait partie de cette zone. La seule solution serait de changer de stratégie. La guerre contre la drogue ne peut pas se régler par les armes. Au moins maintenant, il n'y a plus l'armée. C'est déjà positif.
Entonces ahora por lo menos no está el ejército aquí. Pues eso ya es algo bueno.
Près de la cathédrale, sur la rue piétonne bordée de magasins, des vendeurs étalent leurs objets faits en Chine. Des musiciens font la manche. Mali, à la quarantaine, trempe ses tortillas dans une grande poêle pleine d'huile sur son stand abrité d'un parasol bleu.
Pásale, ¿qué le ponemos, mija? Son gorditas de picadillo y de colorado tenemos.
Je fais des chaussons de maïs à la viande, des enchiladas au fromage et aux oignons. Moi, je suis d'ici, de Juarez, depuis toujours. Pourquoi partir ailleurs? Ici, il y a du travail pour celui qui veut travailler. Personne ne meurt de faim.
Ici, il y a du travail pour celui qui veut travailler. Ici, nadie se muere de hambre.
Quand la violence, usted se quedó aquí también?
Et pendant la période de la violence, vous êtes resté?
Oui, mais on a dû fermer les magasins. Mais bon, on s'en est sorti.
Nous récupérons, premièrement, Dieu.
Il paraît que les crimes ont augmenté ces derniers mois.
Il
n'y en a pas autant qu'avant, mais la situation est difficile. Mais bon, quand tu dois y passer, c'est comme ça. Tant qu'on va bien, tout va bien. On manque toujours d'argent, mais avec de la volonté, on arrive à tout.
Tout va bien. El dinero siempre falta, pero pues echándole ganas para todo hay.
Crescencio Navarro, lui aussi, était aux premières loges au pire moment de la violence. Depuis 20 ans, il tient un petit restaurant de sandwich à emporter. Tout le monde y vient pour déguster les meilleurs burritos.
El centenario, burrito del centenario. Aquí se hacen los burritos más sabrosos de Juárez.
Ici, c'est burrito centenario. On fait les meilleurs burritos de Juárez, du Mexique et du monde. Ici, on a vécu dans la peur. Il y avait beaucoup de violence. Mais on ne s'est jamais arrêté de travailler. On venait en serrant le crucifix et Jésus dans la main. Mais beaucoup de nos clients ne sont plus revenus. On ne savait pas ce qui leur était arrivé. Ils ont disparu, ils ont été tués. Aujourd'hui, cette violence continue, mais pas de façon aussi effrontée. Avant, il pouvait y avoir jusqu'à 40 ou 50 morts par jour. C'est un peu plus calme. Mais on a toujours peur, car ça peut nous arriver un jour. Le soir, quand je finis mon travail, il n'y a plus de bus, donc je prends un taxi pour rentrer chez moi. Mais c'est dangereux, on ne sait jamais ce qui peut se passer en route. J'ai plus de possibilités de travail ici au Mexique. Je me sens plus libre, mais j'ai plus peur aussi. Mais bon, j'aime le Mexique.
Más libre, pero con más miedo también ya. A mí me gusta pues México.
Au plus fort de la violence, 250 000 habitants ont fui pour sauver leur peau. Beaucoup sont allés aux États-Unis et y sont restés. Comme Maricela Ortiz, menacée de mort car elle tentait de faire la lumière sur le sort des femmes disparues. Depuis l'assassinat de Lilia, la fille de son ami Norma Andrade. J'ai pu la rencontrer à Ciudad Juárez où elle revient rarement, en catimini, dans une résidence ultra sécurisée.
En février 2001,
en février 2001, Lilia Alejandra Garcia Andrade a disparu. C'était mon élève et la fille d'une de mes très bonnes amies, une enseignante comme moi. J'ai voulu l'aider à la chercher. Lilia avait 17 ans. Elle a été retrouvée une semaine plus tard dans un terrain vague. Elle avait été assassinée 24 heures après sa disparition. Il y avait des marques de torture sur son corps. On avait du mal à reconnaître son visage. Elle était défigurée par les coups. On lui avait arraché les lèvres avec les dents. Elle avait des marques de brûlure de cigarette. C'était horrible. Sa famille a enduré une souffrance terrible.
Era horrible. El sufrimiento para la familia fue tremendo.
Maricela Ortiz et Norma Andrade ont fondé l'association Nuestras Hijas de Regreso a Casa, nos filles de retour à la maison. Elles ont été rejointes par des dizaines d'autres parents qui avaient subi la disparition ou le meurtre d'un de leurs enfants. Au fil des ans, l'association a mis en lumière des connivences entre les groupes criminels et des fonctionnaires de l'État, ce qui a valu à Maricela Ortiz des menaces de mort.
À chaque fois qu'on menait des actions, on recevait des menaces. Mon fils s'est fait tirer dessus alors qu'il roulait en camionnette. Ils ont tué mon gendre, ils ont tué mon frère. On m'a menacé de mort deux fois. On m'a mis un pistolet sur la tempe pendant toutes ces années. Et vous saviez qui c'était ? Pour moi, c'était des gens du gouvernement de cet État, ceux qui auraient dû enquêter sur ce qu'on dénonçait. C'était la police, des gens qui étaient sans doute impliqués dans les assassinats de femmes, dans les enlèvements de ces jeunes filles. Mon mari a failli être tué. On l'a visé avec un pistolet alors qu'il m'escortait. Mon gendre ressemblait beaucoup à mes fils et ils l'ont tué en novembre 2009. Ils ont aussi tué d'autres militantes comme moi. Alors j'ai commencé à avoir très peur. Je n'avais plus toute cette force. J'étais très fatiguée de tout ça. Ça a été très dur pour ma famille et encore plus pour moi parce que je ressentais de la culpabilité.
Et pour moi aussi, parce que je sentais une certaine culpabilité.
16 ans après, les coupables de l'assassinat de Lilia Andrade n'ont toujours pas été identifiés. Maricela Ortiz, grâce au soutien d'Amnesty International, a porté l'affaire devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui a condamné l'État mexicain à reconnaître les meurtres de femmes, les féminicides, et a octroyé des réparations aux familles de 8 victimes. Et le Mexique a dû créer en 2012 un parquet spécialisé dans les crimes contre les femmes et les délits de violence liés au genre. Laura Moreno est la coordinatrice de cette institution.
La Fiscalía Especializada de la Mujer, como se le conoce, se creó en febrero del 2012.
Le parquet spécialisé sur les femmes a été créé en février 2012 et cela a beaucoup amélioré la qualité de la justice. On doit offrir un service spécialisé car on s'occupe de cas de femmes et de jeunes filles. Beaucoup disent que les délits contre les femmes ont augmenté. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que désormais, les femmes sont informées. Elles savent qu'il y a un lieu spécialisé où on peut s'occuper d'elles. Ce sont les plaintes qui ont augmenté.
Laura Moreno assure que 40% des cas de meurtre de femmes ou de disparitions signalés depuis 1993 ont été résolus. Ce n'est pas l'avis de José Luis Castillo, un ami de Maricela Ortiz. Lui est toujours à la recherche de sa fille Esmeralda, disparue en 2009 à l'âge de 14 ans sur le chemin de l'école. 8 ans après, rien n'avance. José Luis Castillo est un homme brisé, mais toujours combatif.
Ahorita l'expediente Esmeralda se encuentra en la Fiscalía de Búsqueda.
Actuellement, le dossier d'Esmeralda se trouve dans la section des personnes recherchées. En 2015, ils ont voulu nous remettre un bout d'os de sa jambe et transférer le dossier de la section disparition à celle des homicides. On leur a dit « D'accord, mais avant ça, dites-nous comment elle est morte ». Ils ont répondu « Avec ce bout d'os, on ne peut pas savoir ». Donc ils ne sont même pas sûrs qu'elle soit morte. Jusqu'à présent, on a fait 4 fouilles. On a trouvé 60 restes osseux. Les autorités ne nous ont pas dit à qui ils appartiennent. On nous a juste dit que ce ne sont pas ceux d'Esmeralda.
Que hasta el momento no se nos entrega de quién son. Lo que nos han dicho es no son de Esmeralda.
Et vous les avez faites quand ces fouilles ?
On en a fait une par mois. On fait ces ratissages avec l'aide de citoyens.
Pour se protéger des groupes criminels qui sévissent dans le Valle de Juárez, une zone désertique transformée en fosse commune où beaucoup de restes de disparus sont retrouvés, José Luis Castillo fait toujours une conférence de presse quelques jours avant, afin que ces bandes criminelles liées au trafic de drogue se retirent de la zone pour laisser les parents fouiller la terre avec leurs propres outils achetés avec leurs maigres revenus.
Cada vez que vamos encontramos en el Valle de Juárez. Hemos encontrado prendas de vestir de mujeres.
À chaque fois que l'on va dans le Valle de Juárez, on trouve des restes, des vêtements de femmes, d'hommes, certains avec des traces de sang, des culottes avec du sperme, des cheveux qu'on relève pour les analyses ADN. On est en train de former un groupe de médecine légale indépendant du gouvernement et on subit déjà les représailles. Une collègue, jeune médecin légiste, a reçu des menaces.
Amiga recién graduada odontóloga forense, ya la empezaron a amenazar.
De qui ?
Du gouvernement de cet État.
Pour Maricela Ortiz, la seule façon de mettre fin aux violences, c'est de passer un accord avec les groupes du crime organisé, qui incluent des fonctionnaires de l'État corrompus.
Aquí se mata porque primero porque se puede y segundo pues porque deja dinero.
Ici, on tue d'abord parce qu'on peut le faire et puis parce que ça rapporte de l'argent. Selon moi, dans 90% des cas, des personnes liées au pouvoir ont été impliquées. Le pouvoir, ce sont les responsables politiques, les unités de la police municipale, fédérale, l'armée. Ce sont eux qui nous écrasent. Il y a de nombreux indices qui montrent qu'ils participent à beaucoup de ces crimes, aux féminicides, mais aussi à des enlèvements. Ici, tout se fait pour de l'argent. Pour moi, il faudrait passer un pacte avec les narcos. Il n'y a pas d'autre moyen. On ne peut pas les combattre comme l'a fait le président Calderón, car beaucoup d'innocents sont morts. Il faut un pacte de respect mutuel.
Resultan muchísimas víctimas inocentes. Tienen que hacerse un pacto de respeto.
Cette connivence manifeste entre politiques, représentants de l'État et le crime organisé. Le photographe Julián Cardona l'a décrit avec des témoignages dans son livre qu'il vient de terminer, un abécédaire saisissant de Ciudad Juárez.
El objetivo del libro es retratar a través del lenguaje la realidad violenta en Juárez.
L'objectif de ce livre est de dresser un portrait de la réalité violente de Juárez à travers les éléments de langage. Un exemple, j'ai interviewé des personnes en prison, je leur demandais « Pourquoi tu es ici ?» Certains répondaient « Moi je suis montado ». Ça signifie que l'armée m'a torturé, ils m'ont mis de la drogue sur le dos, des armes. C'est pour ça que je suis en prison, mais je suis innocent. Donc un montado, c'est une personne qui a été torturée, jugée et condamnée de façon injuste. Ils m'ont dit que ce mot était apparu avec l'armée. Dans mon livre, cette relation entre les crimes et les autorités ressort de façon flagrante. C'est un nœud gordien. La façon dont sont mêlées la violence et la politique, ce n'est pas de la corruption, me disait un de mes interlocuteurs. C'est une façon de gouverner. Et ce qu'on vit au Mexique, c'est une façon de gouverner. C'est une forme de terreur. C'est un État où il n'y a pas de séparation réelle entre les pouvoirs. Il n'y a pas de démocratie réelle, pas de respect des droits fondamentaux. Et c'est à ça que faisait référence mon interlocuteur. Ce à quoi on assiste, tous ces crimes, les violences contre les femmes, contre les jeunes, la disparition de femmes et d'hommes pauvres en majorité, c'est la manifestation de cette manière de gouverner.
Et ce n'est pas risqué pour toi de dire tout ça, Julián ?
Je l'ai toujours fait. J'ai toujours dit clairement ce que je pensais et je continuerai à le faire. Je pense que parler en publiant son travail, c'est la meilleure chose à faire pour le reporter. Je te dis ce que m'ont confié les personnes que j'ai interviewées, et ça fait longtemps que je fais ça. Au-delà de mon opinion, je rapporte surtout ce que d'autres m'ont raconté.
Más que mi opinión es mostrar lo que otras personas a través de mi trabajo me han dicho.
José Luis Castillo lui aussi dénonce à ses risques et périls ce système corrompu alors que des femmes, mais surtout beaucoup d'hommes, continuent de disparaître ou d'être tués à Ciudad Juárez.
El índice de varones desaparecidos es mucho más grande.
Il y a bien plus de disparus chez les jeunes hommes que chez les femmes. Lors de certaines fouilles qu'on a faites avec le bureau du procureur général, quand on trouvait une ceinture ou des vêtements d'homme, ils nous demandaient « Vous cherchez quoi, un homme ou une femme ?» On disait « Une jeune fille ».« Ah » disait-il, « Alors on se fiche de ça ». C'est là qu'on a décidé de rechercher aussi les jeunes hommes disparus. Actuellement, il y a beaucoup de cas. Les mères de ces jeunes disparus ont peur de les chercher, elles ont peur de porter plainte. Nous sommes totalement convaincus que nos autorités sont impliquées dans la disparition de nos êtres chers, soit par omission, car elles n'enquêtent pas, soit par complicité, car elles se font payer pour que les responsables ne soient pas arrêtés lorsqu'ils se dirigent vers le Valle de Juárez ou quand ils commettent ces meurtres.
Quand ils se dirigent vers le Valle ou quand ils vont quitter la vie. Quantos feminicidios ha habido?
Avec le nombre de féminicides qu'il y a eu depuis la fin des années 90, il n'y a pourtant que 4 ou 5 détenus qui ont été arrêtés récemment. On dit que ce sont eux les coupables. Mais en fait, il n'y a aucune preuve concrète. Malheureusement, on a laissé faire tout ça pendant des décennies. Quand quelqu'un a osé parler, il a été réduit au silence. Comme Maricela Ortiz qui a dû fuir Ciudad Juárez. Nous, on n'est pas partis de Juárez. Ce n'est pas qu'on soit courageux, c'est parce qu'on a toujours l'espoir que demain, ma fille frappe à la porte et dise « Je suis rentré, papa, repose-toi ». C'est pour ça que je ne suis pas parti de Juárez. Ce n'est pas parce que je n'ai pas peur. Si, si, j'ai très peur. Mais j'ai tellement envie de me réveiller un jour en trouvant ma fille à la maison, en me disant que tout ça n'était qu'un affreux cauchemar. C'est pour ça que l'on continue, qu'on apporte notre grain de sable pour que d'autres familles ne souffrent pas comme nous. Et puis aussi, je dois le dire, en attendant le retour de mon Esmeralda.
Grand reportage à Ciudad Juárez, Véronique Guémard, réalisation Pauline Leduc.